Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Biotope. Un programme soutenu par BioVallée.
Merci d'écouter Erdiwa sur le 107.5 FM et Radio Saint-Ferréol sur le 94.2 en compagnie de deux représentants de la LPO Drôme. Laure Vuinet, vous êtes salarié de la LPO Drôme, bonjour.
Bonjour.
Et Gilbert David, vous étiez président, vous l'êtes toujours, je ne sais plus.
Oui, je suis toujours président.
Vous êtes toujours président de la LPO Drôme. On vous connaît à l'antenne. Ensemble, nous allons évoquer un grand chantier que vous êtes en train de faire en ce moment, de sauvegarde ou d'études, voilà, concernant des chauves-souris qui ont été trouvées en vallée de la Roanne. Et vous êtes là dans le studio puisque vous avez participé aux rencontres écologie au quotidien. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un petit résumé, une présentation de ce projet ?
En fait, il s'agit d'un site, d'une grotte qui se situe dans la vallée de la Roanne, la grotte des Sadoux, qui héberge une population importante de chauves-souris protégées à l'échelle nationale et européenne, qu'on appelle le Minioptère de Schreber. Il y a d'autres espèces protégées qui sont aussi présentes dans cette cavité et qui justifient aujourd'hui des actions d'études et de préservation de ces chauves-souris présentes dans cette grotte. Donc afin de les protéger, en fait, il y a un site qui est inscrit dans la politique Natura 2000, qui est une politique européenne de protection des habitats et des espèces menacées à l'échelle européenne.
Depuis combien de temps il est Natura 2000 ?
Le site...
C'était une question
piège.
Je ne sais
plus, ouais, la question piège.
Il y a quelques années.
Là, on est sur le deuxième document de gestion. Il y en avait déjà eu un, donc ça fait plus de 7 ans qu'on travaille sur ce site. Et il y a aussi une réserve naturelle régionale qui prend en compte la grotte, qui est plus petite, qui fait 30 hectares, alors que le site Natura 2000 en fait 1316. La réserve, elle existe depuis les années 90 et elle a été officialisée en réserve naturelle régionale en 2009.
Vous pourriez me donner le nom de cette réserve qui est en vallée de la Roanne, que je ne connais pas.
C'est la réserve de la grotte des Sadoux, tout simplement.
Cette espèce de chauve-souris, que je n'ai pas risqué à donner le nom, a été découverte récemment dans cette grotte ou pas du tout ?
Non, il y a déjà, en fait, on a des revues de spéléologues qui datent des années 80, qui cite déjà la présence de chauves-souris dans ces cavités. À l'époque, il y avait des spéléologues originaires de Saint-Benoît-en-Diois qui prospectaient toutes les cavités présentes dans la Roanne, qui décrivaient dans leur revue à quoi ressemblait la grotte, quel développement il y avait, ce genre de choses. Et il précisait aussi quelles espèces de faune il pouvait y observer, et notamment les chauves-souris. Donc voilà, il y a des écrits du genre « se retrouver avec du guano jusqu'à la taille ». Enfin voilà, c'était un peu exagéré par moments, le guano étant l'excrément de chauves-souris. Donc c'est connu depuis longtemps qu'il y a des chauves-souris dans cette grotte. Et c'est depuis des années, des dizaines d'années, que les naturalistes s'y intéressent. Et au fur et à mesure, avec le développement aussi des politiques environnementales, c'est un site aujourd'hui qui est protégé et sur lequel on peut mettre en place des actions d'inventaire et de gestion des milieux et de sensibilisation autour de la thématique chauve-souris, sachant que tout ce qu'on met en œuvre sur ce territoire-là finalement profite à la biodiversité de manière générale, les chauves-souris étant la porte d'entrée principale.
C'est le développement en fait de la spéléologie qui pouvait porter un risque. Tant qu'il n'y a que quelques personnes qui y vont, il n'y a pas de problème. C'est la multiplication des dérangements qui pourrait poser problème.
Le côté exploitation touristique de la grotte en elle-même ?
Pas forcément touristique. Après, quand il y a une cavité qui est intéressante à visiter, facile d'accès, en fait, le bouche à oreille fonctionne très bien. Il y a d'autres cavités comme ça, présentes sur le Vercors ou dans le Diois, où il y a de la fréquentation importante sur des cavités faciles d'accès et pas dangereuses. Les chauves-souris sont extrêmement sensibles aux dérangements. En période d'hibernation, lions, parce que quand elles sortent de leur hibernation pour cause de dérangement, elles utilisent énormément d'énergie et c'est des réserves qu'elles n'auront plus pour le printemps. Et en été, en période de reproduction, parce qu'elles sont avec leurs petits, et s'il y a un dérangement, il peut y avoir un mouvement de panique au sein de l'essaim et tous les petits peuvent par exemple tomber à terre et mourir. Donc en fait, sur ces périodes extrêmement sensibles, dans certaines cavités, on essaie de limiter le dérangement, de préserver la tranquillité des chauves-souris pour pouvoir préserver ces espèces qui sont protégées. Par exemple, la grotte des Sadous, c'est une grotte qui est située en forêt domaniale et donc en accord avec l'ONF et en partenariat avec le comité départemental de spéléologie. C'est une grotte qui est fermée, qui n'apparaît pas sur les cartes IGN, le sentier d'accès n'est plus entretenu et il y a une grille à l'entrée de la grotte depuis les années 90. Et voilà, ça permet de limiter fortement la fréquentation sur cette cavité où il y a un important enjeu pour les chauves-souris. Sur d'autres cavités, on peut avoir des chauves-souris présente, mais beaucoup moins, donc il n'y a pas de logique de fermeture.
Et cette cavité, on entend que finalement elle est très facile d'accès, on ne perd pas un bénéfice géologique sans précédent, je veux dire, les spéléologues ne vous font pas la guerre maintenant. Ah,
non, non, pas du tout. Alors, nous, on travaille avec le comité départemental. Oui, par exemple, l'une des actions qu'on a mis en œuvre là depuis 2 ans, c'est justement d'explorer, de topographier les cavités autour de la grotte des Sadous, pour voir s'il y avait des chauves-souris, aussi pour mieux connaître du coup l'espace souterrain sur ce site. Donc ça a une valeur scientifique d'un point de vue spéléologie, mais aussi pour les chauves-souris, parce que si elles sont présentes, ça nous permet d'affiner nos comptages quand on fait les inventaires. Donc voilà, ça permet aussi de financer ce type d'action et de travailler en partenariat. Après, c'est des approches, il y a des spéléologues qui les comprennent, d'autres pas. Je pense qu'aussi sur la fréquentation des milieux naturels de manière générale, on rentre de plus en plus quand même maintenant dans des logiques de concertation, essayer de prendre les choses en amont avec l'ensemble des partenaires. On a les mêmes démarches sur les sites d'escalade avec les clubs alpins français sur Soue par exemple, où on essaie de pouvoir voir où est-ce qu'il y a un terrain d'entente entre des pratiques sportives, la fréquentation humaine dans les espaces naturels et la préservation de la biodiversité. Donc par exemple, il y a une cavité aussi qui a été fermée au-dessus d'Y sur le plateau de Solor. Et là, l'enjeu se situe essentiellement en hiver. Donc c'est une cavité où il y avait énormément de fréquentation. Pareil, c'est en forêt domaniale, donc ça s'est fait avec les spéléologues et l'ONF et la commune concernée pour discuter de la fermeture de la cavité. Et cette fois, en fait, la grille, elle est fermée toute l'année, sauf du 15 juin au 31 août, où la grille est ouverte et où les gens peuvent quand même y aller. Parce qu'on savait que si on allait complètement la fermer, ça allait être mal accepté. Et puis c'est une période où il y a moins d'enjeux pour les chauves-souris. Donc on essaie quand même d'adapter, d'être dans la concertation. Après, il y a toujours des personnes, mais de quel côté que ce soit, du côté des naturalistes, des spéléologues, des élus ou des randonneurs qui peuvent ne pas être d'accord avec ces démarches-là. Voilà, on essaie quand même de travailler le plus possible quand même en partenariat et en bonne entente.
Faut-il protéger toutes les chauves-souris ou cette espèce en particulier ?
Il y a 34 espèces de chauves-souris en France métropolitaine. Et elles sont toutes protégées. Il y a certaines espèces qui ont un état de conservation plus critique que d'autres. Il y a des espèces comme la pipistrelle qui sont quand même assez communes et présentes partout. Le myoptère de Schreber, c'est une espèce extrêmement sensible dans le sens où c'est une espèce qu'on trouve que dans des cavités. On a des gros regroupements dans quelques cavités. On va faire très attention à ces populations présentes dans ces cavités. On suit une autre cavité dans la Drôme où il y a à peu près 13 000 chauves-souris en hiver en hibernation. Il y a une dizaine de cavités comme ça en France qui regroupent de telles populations. Donc c'est certain que c'est des espèces qui ont une écologie qui fait qu'on va s'y intéresser particulièrement. Mais de manière générale, on travaille pour la préservation de l'ensemble des espèces. On va avoir un focus un peu plus important sur certaines espèces selon les enjeux du territoire. Mais toutes les espèces de chauves-souris sont protégées en France.
Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit. par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris aimait un parapluie, aimait un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui. Elle voulait se mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, découpé dans la nuit. Sans jamais s'émouvoir, pour cette chauve-souris, le grand parapluie noir sortait de son étui. Il prenait sous son aile soin d'une belle nuit qui boulevard Saint-Marcel le nourrissait de pluie. Puis le grand accessoire se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de jet. Après les palabres pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabre le mit dans son gosier, le mit dans son gosier. Un acrobate servit le balancier, un vendeur de cravate le prit comme associé. Puis il se déplia sur une permanente, puis il se déplia car il pleuvait sur Nantes, car il pleuvait sur Nantes. Une chauve-souris, demoiselle de la nuit, une chauve-souris aimait un parapluie. Elle vint chercher l'oubli au fond d'un vieux manoir où elle mourait d'ennui pendant que le parapluie menait au Père Lachaise une vie de bâton de chaise. Un jour de mauvais temps, un jour de mauvais temps, un brusque coup de vent lui mit les pieds devant. On le laissa pour mort dans quelques caniveaux. On le laissa pour mort avec le bec dans l'eau, avec le bec dans l'eau. En voyant son squelette qui faisait sa toilette parmi les détritus et les denrées foutues, c'est la chance qui me sourit, et voilà la chauve-souris. Je le croyais perdu, le manche est revenu, le manche est revenu. Riant comme une baleine, pleurant comme une madeleine, une chauve-souris aimait un parapluie. Ils allaient se dire oui dans le grenier de la mairie. Une chauve-souris aimait un parapluie. Une chauve-souris aimait un parapluie. Une chauve-souris aimait un parapluie.
Alors Vunet, vous êtes la spécialiste des chauves-souris, c'est pas votre rôle.
Non, c'est mes collègues Thomas Deana et Stéphane Vincent qui sont chiroptérologues, donc spécialistes des chauves-souris.
J'avais cru que vous vous occupiez particulièrement de ce...
Oui.
Laure Vunet, elle est chargée de mission biodiversité, ouais. donc
ça,
englobe quand même les chauves-souris, alors que Stéphane et Thomas... ce sont des salariés qui ne travaillent que sur les chauves-souris à l'alpéodrome. Je voulais juste faire un petit aparté là-dessus. L'alpéo, tout le monde croit qu'on s'occupe que des oiseaux.
Oui, à chaque fois on le répète. Hein.
Voilà, donc c'est la Ligue pour la protection des oiseaux et de la biodiversité. Depuis quelques années, c'est comme ça. Et on l'a inscrit carrément sur notre logo maintenant, donc pour être plus clair, clairement visible. C'était juste pour dire que la chauve-souris n'est pas un oiseau.
Oui, voilà.
On ne l'a pas dit, mais il vaut mieux le préciser. C'est un mammifère, c'est le seul mammifère volant dans le monde, je crois.
Oui. Ouais, en vol actif. Oui.
En vol actif, voilà, parce qu'après il y a des écureuils, mais c'est qu'en plané.
Voilà.
Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu comme ça, rapidement, les missions de la LPO et pourquoi vous vous intéressez aux chauves-souris? D'ailleurs, qui d'autre peut le faire localement, que de s'assurer de leur protection, de leur comptage, de leur étude?
À ma connaissance, en tout cas, il n'y a que la LPO qui s'occupe des chauves-souris dans la Drôme. Nos deux salariés ont dépassé même les limites de la Drôme, puisqu'ils interviennent parfois dans tout Rhône-Alpes et même en PACA. Ce sont vraiment des spécialistes très, très pointus. Ils forment quand même d'autres personnes. Ils ont fait des stages pour l'ONF, pour d'autres instituts. Mais pour la Drôme, en tout cas, ce sont vraiment les spécialistes les plus... les plus pointues pour cette étude-là, car il faut quand même bien les connaître pour pouvoir faire des comptages, des études très approfondies sur ce sujet-là.
Au niveau associatif, selon les départements ou les régions, la compétence sur les chauves-souris, elle est présente à la LPO ou à la FRAPNA. En région PACA, il y a une association spécialisée sur les chauves-souris. C'est le groupe Chiroptère de Provence.
C'est des organismes qui vont solliciter des associations au niveau local, quoi, en fait.
Ça dépend. Enfin, s'il y a des personnes qui... Bon, ça peut être l'État, la région, le département ou des sites où il y a des gestionnaires qui veulent faire une étude des chauves-souris sur leur site, qui vont solliciter, par exemple, des associations qui ont cette compétence. Après, il y a aussi tout le domaine des bureaux d'études qui peuvent aussi avoir des salariés spécialisés sur les chauves-souris. Dans le cas d'études d'impact, par exemple, il est demandé parfois que le groupe des chauves-souris soit pris en compte. Donc là, ils peuvent faire appel à des bureaux d'études. Au niveau associatif, du coup, selon les départements et les régions, c'est différentes structures qui peuvent s'y intéresser. Mais effectivement, dans la Drôme, c'est la LPO Drôme qui a ses compétences.
Mais vous l'avez développé, ces compétences, pour offrir ce service, non ?
Oui, on a embauché des salariés qui avaient déjà des compétences qu'ils ont développées en fur et à mesure des années avec l'expérience. C'est vrai, vous me demandez quelles sont les autres missions de la LPO, entre guillemets. La biodiversité ne s'arrête pas qu'aux chauves-souris.
Et aux oiseaux, bien sûr.
Et aux oiseaux. Nous avons 8 salariés à plein temps sur la Drôme pour toute la biodiversité. Donc 2 sur les chauves-souris, 1 sur les reptiles amphibiens, 1 pour les oiseaux, et puis après... Il y a d'autres qui sont un peu plus polyvalents. On a un directeur qui chapeaute, c'est Vivien Chartandreau, qui va intervenir d'ailleurs sur la biodiversité dans le bâti, donc en ville. C'est dimanche matin, dimanche après-midi. Oui, je crois. Enfin bon, c'est aux rencontres en tout cas. Voilà. Et donc voilà, c'est notre... Notre but, en fait, c'est bien l'étude et la protection et sur toute la biodiversité, au moins des vertébrés terrestres. Alors, c'est reptiles amphibiens, oiseaux et mammifères. En fait, la LPO, avant, elle s'appelait Cora Drôme et avant, elle s'appelait GEDERVE, groupe drômois d'études et de recherche sur les vertébrés. Le GEDERVE a été créé par Jean-Pierre Choisy, qui est bien connu pas mal de spécialistes naturalistes. Et c'est en 1975, donc il y a déjà une bonne 40... Enfin, ça va faire 40 ans l'année prochaine. Déjà, à l'époque, on s'intéressait à toute la faune vertébrée sauvage. Donc, groupe drômois d'études et de recherche sur les vertébrés, qui est devenu CORA, et le CORA est devenu LPO. Mais nous n'avons pas changé nos statuts. Enfin, on a toujours... travailler entre guillemets, à étudier toute la faune vertébrée terrestre dans la Drôme.
Juste pour compléter, historiquement, la LPO, c'est une association qui est présente aussi au niveau national. Il existe la LPO France et après des LPO dans les régions ou les départements. On a des statuts communs, mais après, chaque association fonctionne, on va dire, de manière autonome, sachant qu'on a des projets communs. Et la LPO, en 2012, a fêté ses 100 ans. Et ce qu'on observe quand même au niveau de la protection de la biodiversité, souvent, l'une des portes d'entrée, c'était effectivement quand même la protection des oiseaux. Et à partir de là, voilà, au fur et à mesure, aussi, on a commencé à s'intéresser à d'autres espèces, à mieux les connaître, à avoir plus de spécialistes sur certains groupes d'espèces. Aujourd'hui encore, par exemple, il y a très peu d'entomologistes, donc de personnes spécialisées sur les insectes. Voilà, c'est des compétences qui se développent aussi au fur et à mesure, et du coup plus on développe une connaissance sur une espèce particulière, plus on peut aussi communiquer dessus et faire en sorte qu'elle soit de mieux en mieux prise en compte justement sur les sites, parce qu'en améliorant les connaissances on arrive aussi à mieux la préserver et à mieux sensibiliser les élus, les collectivités, les habitants, tout le monde en fait, à la présence de certaines espèces, pour finir aussi à la préservation des habitats des espèces, donc d'avoir une vision de plus en plus intégratrice de l'ensemble des écosystèmes.
Vous êtes combien à la LPO ?
On est entre 450 et 500 adhérents. Là, on est en début d'année, donc l'an dernier, on était 460 à peu près, mais ça augmente tous les ans. Depuis que nous sommes passés LPO, On est passé à une petite centaine d'adhérents, à donc à plus de 460 adhérents. Voilà. Donc on a une association qui se développe et qui a des membres un peu partout dans la Drôme.
Et puis qu'il y a déjà une belle force, j'allais dire une belle force de frappe, parce que dépasser 400 adhérents, ça commence à être intéressant, même si c'est une base, c'est un bon départ.
C'est une base, oui, parce qu'après nous avons plein de sympathisants, évidemment. On a des refuges aussi LPO qui dépassent de beaucoup ce nombre-là, parce qu'il y a des gens qui veulent bien mettre leur terrain en refuge LPO, mais qui ne sont pas forcément adhérents, mais qui soutiennent notre action comme ça, dans ce but de préserver quand même la nature autour de chez eux, quoi.
Bah, c'est dit, vous pouvez donc offrir un espace comme refuge LPO, vous pouvez évidemment adhérer, vous pouvez venir compter et vous promener avec les membres, avec vous, voilà, avec la LPO.
Voilà, on fait beaucoup de comptages, de dénombrements, d'actions dans la Drôme pour la nature. Je voulais juste mettre un mot aussi. Il y a une LPO, comme la Drôme est très grande, on a fait des groupes locaux. Et il y en a un dans le Diois, donc que
vous animez.
Que j'anime, voilà, je cherchais le mot. C'est intéressant, s'il y en a qui veulent venir. Pardon, le petit téléphone là.
Et y a-t-il un groupe local dans le Crétois, puisqu'on a les auditeurs de Biotope sont aussi dans le Crétois?
Alors, dans le Crétois, il n'y en a pas. Il y en a un vers Montélimar, il y en a un autre à Nyons, il y en a un autre à Romans.
Dans le Royan, oui.
Dans le Royan, oui, Royan-Romans. Mais le Crétois se rattache soit aux uns, soit aux autres, mais pas voilà. Pour l'instant.
Ou à l'association qui est dans la Jarvan, qu'on a citée tout à l'heure.
Après, donc il y a une partie des salariés qui est basée à Saint-Marcel-les-Valence, et l'autre partie, donc moi, Stéphane et Tom, qui travaillons plus particulièrement sur les chauves-souris, nos locaux sont à Cré.
Ça permet d'avoir une antenne, alors.
Voilà, exactement. On a notamment un programme d'action qu'on mène en partenariat avec l'Isandra sur le territoire de la Jarvan et de la Scie, donc à proximité de Cré, où on fait des inventaires, des suivis d'oiseaux, de chauves-souris. Il y a des inventaires participatifs qui sont organisés. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent près de Cré, pas via le biais de groupes locaux, mais via les programmes qu'on a mis en place et les actions qu'on fait. Donc, les gens sont les bienvenus aussi pour participer à ces actions-là.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
En votre compagnie, Laure Vuinet et Gilbert David de la LPO Drôme, nous évoquons le projet concernant la sauvegarde des chauves-souris de la vallée de la Roanne, de la grotte des Sadoux. Qui a porté ce projet ?
À la base, c'est des naturalistes qui connaissaient l'enjeu sur cette grotte et qui ont créé à l'époque ce qu'on appelait des réserves naturelles volontaires. Donc quand un propriétaire savait qu'il y avait un enjeu écologique chez lui, il pouvait créer une réserve naturelle, ce qu'on appelait une RNV. Et les régions ont la possibilité aussi de créer des réserves naturelles régionales. Et quand les régions ont eu ces compétences-là, la réserve naturelle volontaire a été transformée en réserve naturelle régionale.
Autonome, c'est naturaliste.
De la LPO, du Cora. Enfin, à l'époque, je ne sais pas qui
c'était. C'était le Cora à l'époque.
Donc ça vient quand même déjà de chez vous, quand même.
Oui. Ah, ouais. Voilà. Après, le site Natura 2000, il se base quand même sur toutes les données que l'État peut avoir sur les espèces à protéger. Et donc, ils savaient du coup qu'il y avait des enjeux pour les chauves-souris sur ces sites-là. Et donc, un site a été créé sur cette zone qui est beaucoup plus grand que la réserve, ce qui permet de protéger les chauves-souris dans la grotte et aussi de préserver leur territoire de chasse à proximité de la grotte.
Donc, qui a porté le projet ? C'est la LPO. Faudra le dire comme ça la prochaine fois.
Oui, voilà. Ouais.
C'est très bien. Ouais. Décrivez-nous un petit peu l'action.
Donc, on fait des actions d'inventaire. On suit les chauves-souris, les colonies tous les ans à la même période, en hiver et en été. En hiver, on va dans la cavité pour compter les chauves-souris. Donc, il y en a peu et donc on n'est pas très nombreux à y aller. On fait vraiment le moins de bruit possible pour ne pas les réveiller. On n'y va qu'une fois. Et en été, on y va deux fois. On les compte en sortie de gîte.
Vous cliquez comme,
exactement.
Comme en manifestation.
Là, voilà, exactement. Donc, on les compte en sortie de gîte. Et on va une fois dans l'été voir les seins de petits qui est au fond de la grotte pour estimer les populations. On fait aussi donc, du travail avec les spéléologues pour connaître les cavités aux alentours. On a fait un inventaire des invertébrés, donc des insectes qui sont présents dans la grotte avec des spécialistes. On a mis aussi en place du coup des actions de préservation des habitats, de restauration des habitats en faisant de la réouverture de milieux ouverts avec Volontaires pour la Nature et l'ONF, ce qui fait l'objet d'une autre émission. Il y a du pâturage aussi qui est mis en place sur le site et on fait aussi de la sensibilisation. On a mis en place des panneaux à l'entrée du site pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a un site Natura 2000, quel est l'enjeu présent sur ce site. On anime ce qu'on appelle des nuits de la chauve-souris une fois par an dans les communes concernées.
Et enfin, vous avez protégé l'entrée de cette grotte,
oui.
Quand même.
Ah oui, oui, j'ai oublié de le dire. Oui, ça a été fait dans les années 90. Ouais. Il y a une grille qui a été mise en place avec l'ONF pour éviter la fréquentation.
Cette réserve, elle est co-gérée par la LPO et l'ONF, qui est le représentant du propriétaire, l'État.
Combien coûte cette opération? Combien a-t-elle coûté? Coûte-t-elle encore?
Ça dépend des années, ça dépend de ce qu'on fait. Mais on est de l'ordre de 15 000, 20 000 euros. L'animation de site, ça prend beaucoup de temps de mettre en place des partenariats, de connaître les gens, de communiquer, trouver des éleveurs pour aller pâturer sur des secteurs pas évidents, ça se fait pas en deux secondes. Donc ça prend beaucoup de temps d'arriver à avoir une dynamique sur le territoire et d'arriver à mettre en place de la concertation. Et du coup, les financements viennent de l'État et de l'Union européenne, vu qu'on a un site Natura 2000, et de la région, vu qu'il y a une réserve naturelle régionale. Parfois, il y a aussi de l'autofinancement de la LPO Drôme quand il y a des actions qu'on a envie de mettre vraiment en place. Mais c'est quand même essentiellement région et État qui nous permettent de mettre en place ces actions.
Et les moyens humains, donc la LPO met à disposition deux salariés spécialisés chauve-souris.
Oui,
vous-même qui
oui,
travaillez.
Voilà. Ouais. Moi, je suis plus.
Déjà trois, on va dire.
Ouais, je suis plus sur de la gestion de projet, gestion des milieux naturels. Mes collègues sur les études chauve-souris, on fait appel à des spécialistes pour la spéléologie, pour l'inventaire des invertébrés.
Elle est combien de personnes en gros?
Je dirais.
Bénévoles compris.
Ouais, une bonne vingtaine, trentaine par an, ouais.
Quelques points de réussite et ou d'échecs.
La politique Natura 2000, ça peut être une politique qui peut être très mal reçue sur les territoires. Natura 2000 n'est pas une politique réglementaire, elle n'impose pas de réglementation. C'est des évaluations d'incidence, donc on va éviter de rentrer dans les détails. Mais voilà, les gens peuvent avoir peur en fait de plus pouvoir faire ce qu'ils veulent chez eux, alors qu'en fait toutes les actions qu'on met en place de réouverture des milieux, d'études ou ce genre de choses, ou adaptation des pratiques agricoles à la présence d'une espèce, ça se fait qu'avec grâce à la volonté du propriétaire ou de l'agriculteur qui souhaite rentrer dans cette démarche. Et du coup, il y a des financements qui sont disponibles pour ouvrir des milieux. Moi, j'ai envie de dire que c'est un site qui n'est pas conflictuel, qui se passe bien avec les collectivités, où on arrive à avancer, à mettre plein d'actions en place. Moi, je trouve que c'est une belle réussite. Au niveau humain, c'est très intéressant et agréable de travailler comme ça.
Allez, on termine avec les contacts pour joindre la LPO.
La LPO Drôme, son siège est basé à Saint-Marcel-les-Valences, dans les locaux de l'INRA. L'adresse exacte, c'est Gautheron. C'est le site de l'INRA.
Un numéro de téléphone?
Le téléphone, c'est le
04 75 57 32 39. Et à Cré, pour les chauves-souris, c'est le 04 75 76 8704. Notre site internet est en cours de construction, mais il existe le site internet de la LPO Rhône-Alpes qui permet d'avoir toutes les informations sur la LPO Drôme en attendant que notre site soit opérationnel.
On n'est pas très fort en informatique.
C'est pas grave, ça viendra.
Capsule.
Gilbert David, Laure Vunet pour la LPO Drôme. Merci pour cette présentation du projet Chauve-souris. Préservation des chauves-souris en Drôme et dans la vallée de la Roanne. À bientôt sur notre antenne.
Merci.
Biotope. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol.
Biotope. Un programme soutenu par BioVallée.